Le journal Josette Sédoux, bonsoir.
Bonsoir, le yodel de l'écho des montagnes de Mont-Soleil résonnera dans la vallée de la Lenque ce soir. La fête bernoise du yodel démarre, on est allé voir un chanteur de Lassibourg. Il nous confie son léger stress et sa réjouissance. Que les communes de Sauges et de Romont ne fassent plus qu'une, oui, mais que les impôts augmentent pour l'une des deux, bof. Voici ce qui préoccupe les deux parties. On entendra les deux maires nous confier leurs sentiments dans cette édition. Un document très attendu dans l'affaire des abus sexuels commis au sein de l'abbaye de Saint-Maurice. Le rapport d'experts a été rendu aujourd'hui. Au moins 68 victimes de violences sexuelles entre 1950 et 2022. On passera au crible les points les plus importants. Et puis météo, un temps toujours estival, une soirée douce au programme et demain encore du soleil et de la chaleur avec quelques orages pas impossibles en fin de journée. Les yodeleurs, corps des Alpes et lanceurs de drapeaux vont faire vibrer la Lenque. La fête bernoise du yodel s'ouvre aujourd'hui dans le Simmental. Quelques 3000 inscrits de tout le canton tenteront de décrocher une place pour la fête fédérale qui se déroulera à Bâle en 2026. Parmi les représentants de la région, on retrouve Christian Chans, agriculteur à Lassibourg. Il proposera un solo ce soir ainsi qu'une représentation de groupe demain avec l'écho des montagnes de Mont-Soleil qui se porte plutôt bien.
Depuis cette année, on est 40 membres, donc on est, je pense, le club où il y a plus de membres. On a un club de juniors aussi, il y en a 3 dans le Jura bernois, donc la relève, elle est là. Et puis après, il faut juste pouvoir l'accepter et travailler avec.
Vis-à-vis de ce week-end, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous espérez une qualification avec une bonne note pour aller à Bâle?
Concernant mon solo, moi je suis déjà content si j'arrive de A à Z avec mon chant. Je pense que c'est une première, donc il y a pas mal de stress, il y a beaucoup d'émotions, il y a mes parents qui viennent. M'écouter, qui se sont mariés là, il y a 37 ans. Et puis pour le club, nous, on est clairement partis pour se qualifier, ou en tout cas, ou alors au moins passer de très très bons moments ensemble, en toute camaraderie.
Des propos recueillis par Violette Ferreira lors de son solo. Christian Chans sera accompagné à la Schwitzoise par son cousin Marc Chans. Leur prestation a lieu ce soir à 20h50. Fusion, le mot est évoqué depuis quelques temps entre la commune de Sauges et celle de Romont. Aujourd'hui, un projet est à nouveau sur la table des deux communes. Ces dernières l'ont récemment évoqué lors de leurs assemblées citoyennes respectives. Alors si du côté des autorités, on se montre globalement optimiste, un dossier en particulier risque tout de même d'animer les débats. C'est celui de la quotité d'impôt qui culmine à 1,90 à Sauges alors qu'elle n'est qu'à 1,60 du côté de Romont. Un sujet d'inquiétude pour Pierre-Alain Grosjean, maire de la commune de Sauges.
À mon avis, c'est le point qui risque de coincer dans le projet. Tous les autres points de la fusion, à mon avis, on va les régler assez rapidement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un groupe de travail de 4 personnes, 2 et 2. Mais la quotité, ça sera quand même à discuter. Peut-être que Romont devra augmenter, peut-être que nous, on va descendre, etc. Mais ça sera certainement la pierre d'achoppement du projet. À mon avis, c'est le seul point qui va causer des discussions.
Et du côté de Romont, ce potentiel point de friction préoccupe aussi les autorités. Pour Yvon Collère, maire de la commune de Romont, il faudra avant tout redoubler de clarté dans les explications fournies à la population.
Ça ressortira du rapport, inconvénients, avantages et désavantages. Et puis peut-être qu'on va prendre un exemple en disant, voilà, on prend une famille avec 2 enfants, qui a un salaire de temps. À la fin, quelle somme ça fait en francs et puis pas en quotité, parce que la quotité, c'est un petit peu abstrait. Tandis que si on dit, voilà, ça vous ferait une augmentation d'impôt de 200-300 francs par année, ça passera peut-être plus facilement.
Vous parliez davantage d'inconvénients. Alors, la quotité d'impôt, ça peut potentiellement être un inconvénient. Au niveau des avantages, aujourd'hui, de fusionner avec la commune d'Ossauges, quels sont-ils?
Bon, c'est d'avoir des remplaçants au niveau du personnel. Hein. Actuellement, on n'est que 2 personnes. Si une personne est malade, voilà, on n'a pas de réserve. Les dossiers viennent de plus en plus compliqués, il faut de plus en plus être spécialiste. Et puis c'est au niveau de l'administration qu'on y gagnerait effectivement.
Un dossier réalisé par Régis Meria. À noter encore que la commission intercommunale créée pour discuter de la fusion travaillera en collaboration avec l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne. Une première séance aura lieu prochainement. Si tout va bien, les deux communes espèrent pouvoir organiser une votation en 2027. Le canton de Berne a remis aujourd'hui à la Confédération les projets de développement des agglomérations de la cinquième génération pour évaluer le cofinancement. Ces projets totalisent 306 mesures pour un volume d'investissement d'environ 1,13 milliard de francs. La moitié de ces mesures encourage la mobilité piétonne et le trafic cycliste. Dans le domaine des transports publics, 5 agglomérations prévoient de passer au bus électrique, dont celle de Bienne et Lys. Pour cette dernière, justement, 39 mesures sont au programme pour un coût de 186 millions de francs. Parmi elles, on retiendra notamment le réaménagement de la place de la gare à Bienne. Le résultat de l'évaluation de ces projets est attendu au printemps 2027. C'est un document choc. Le rapport sur les abus sexuels commis au sein de l'abbaye de Saint-Maurice a été présenté aujourd'hui. L'enquête menée par un groupe de travail chapeauté par des chercheuses de l'Université de Fribourg révèle de nombreux cas de violences sexuelles au sein de l'abbaye et le silence de l'institution. Hugo Savary.
Les historiennes de l'UNIFR ont fouillé de nombreuses archives pendant plus d'une année et la révélation des violences au sein de l'abbaye lors d'une émission de télévision. Les fonds des chanoines, ceux de l'internat ou encore des archives dites secrètes de l'institution, tout a été passé au crible. Quelques 57 personnes ont témoigné, victimes directes et proches de victimes ou encore des témoins. De plus, sur 24 chanoines encore présents à Saint-Maurice, 23 ont accepté de parler lors d'entretiens menés par des juristes du groupe d'enquête. Seul un, pour des raisons inconnues, a refusé. Et les résultats sont accablants. Au moins 68 personnes, dont la plupart mineures, ont été victimes de violences sexuelles, allant de paroles déplacées jusqu'au viol entre 1950 et 2022. Une trentaine de membres de l'abbaye de Saint-Maurice ont commis ces actes, dont quelques-uns résident toujours sur place. Écoutez la réaction du chanoine Antoine Salina, représentant l'abbaye.
Alors moi-même, et je ne suis pas le seul, ça je vous l'avoue, nous savions qu'il y avait pas mal d'éléments, mais le rapport avec la commission a été fait d'une discrétion parfaite, c'est-à-dire d'une étanchéité des informations. Eux, collecter les informations, interroger les confrères, voilà. Nous avons juste su une chose relativement récemment, on nous avait prévenu que ça ne serait pas confortable. Nous ne nous attendions pas à une situation aussi étendue, aussi grave, et je pense pouvoir parler de sidération ou bien d'accablement, mais nous prenons acte et nous avons le vœu, disons, d'être conformes aux mesures d'ailleurs que j'ai évoquées en tant que représentant de l'abbaye.
Ces mesures prévues par l'abbaye comportent notamment l'accueil des victimes, la refonte de la gouvernance ou encore le travail de mémoire. Autre point soulevé par le rapport, l'abbaye aurait tenté de minimiser certains cas ou de déplacer les chanoines incriminés afin de préserver sa réputation.
Les auteurs de l'enquête soulignent que le nombre de cas d'abus est certainement sous-estimé et que ce rapport pourrait motiver certains à témoigner. L'armée peut enfin intervenir à Blatten. Aujourd'hui, les conditions de sécurité ont permis aux militaires en attente depuis début juin dans le Lütjental de commencer les travaux de déblaiement des débris accumulés dans le lac. L'objectif est d'empêcher l'obstruction de son écoulement et d'éviter ainsi des refoulements ou de nouvelles inondations. Des bateaux de l'armée sont mis à contribution. L'accès à la zone de danger délimitée autour de Blatten reste interdit au public. L'ambassade suisse en Iran a été évacuée en raison des attaques israéliennes sur Téhéran. La Confédération estime que la sécurité de ses collaborateurs n'est plus assurée dans la capitale iranienne. L'ambassadrice de Suisse en Iran et le reste du corps diplomatique ont été évacués la nuit dernière. Ils rejoindront la Suisse ces prochains jours. La fermeture de l'ambassade de Suisse en Iran est temporaire. La Confédération continue à remplir ses fonctions en tant que puissance protectrice des intérêts américains en Iran. Dans le cadre de ses bons offices, le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis.
La Suisse continuera, même sans être physiquement présent à Téhéran, d'assumer son rôle d'intermédiaire pour la transmission de messages entre l'Iran et les États-Unis. Ce mandat reste valable, même en dehors de l'Iran, et les deux pays nous ont confirmé que pour eux, c'est aussi OK. Donc, pour être clair, ceci se passe maintenant de manière téléphonique.
Le Conseil fédéral appelle toutes les parties à une reprise du dialogue pour éviter une escalade régionale avec des conséquences dévastatrices sur la population civile. Il condamne également tout recours à la force, au contraire au droit international et humanitaire.
18h10 sur RJB.
RJB Sport.
Yannick Bourquin, en quête d'aventure, habitué des dossards de course, l'ultra-trailer de Tramelan se lance cette fois-ci à l'assaut de la Via Berna en autonomie totale. Son défi consiste à rallier Bellay au col du Soustun en seulement 5 jours sur ce chemin de randonnée qui s'effectue normalement en 20 étapes. C'est donc 300 km pour 12 300 mètres de dénivelé que va avaler l'athlète de 44 ans à hauteur d'une quinzaine d'heures d'effort par jour avec un sac d'environ 9 kg sur le dos. Ce challenge dépasse le simple exploit personnel puisque des dons sont récoltés pour l'association Rêve Suisse. On écoute Yannick Bourquin.
Sur l'ordinateur, j'ai regardé sur la carte et voilà, c'est un peu de l'appréciation. Je commence à connaître un peu mes limites, mes temps de passage. Ça me permet de quand même dormir 6 heures de temps après chaque étape. Ça fait des étapes entre 70 et 50 km, donc avec plus ou moins de dénivelé suivant les étapes.
Dormir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours faire quand on fait un ultra-trail officiel en compétition.
Oui, alors effectivement, certains arrivent à dormir. Moi, je dors très peu sur les ultras, donc sur une durée total entre 30 et 40 heures. Moi, je dors une heure et demie. Là, je dormirai 6 heures environ, donc ça va vraiment changer la donne.
Comment vous vous êtes préparé pour ce défi?
J'ai fait plus de renforcement musculaire. Je me suis entraîné avec le sac à dos chargé à 8-9 kilos pour vraiment m'habituer au poids et puis arriver à malgré tout courir avec ce sac.
Vous serez en autonomie, qu'est-ce que ça implique comme matériel?
Alors, pas mal de matériel, donc j'ai une tente, j'ai un petit réchaud, j'ai un sac de couchage, un matelas, de la nourriture lyophilisée, de l'eau, mais l'eau je prendrai aussi sur le parcours, donc voilà, il y a un petit peu d'habits de rechange et c'est déjà pas mal.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous devriez faire face, qui peuvent susciter éventuellement quelques craintes?
La chaleur, là, ils annoncent très chaud la semaine prochaine et des orages en montagne, donc on verra, c'est surtout la météo là qui est un peu préoccupante.
Des propos recueillis par Émilie Moumentaler. Yannick Bourquin va tenter de parcourir les 300 km de la Via Berna entre dimanche et jeudi prochain. Retrouvez les détails sur son action en faveur de l'association Rêve Suisse en lien sur notre site internet. Un bouquet pour Jordi Muus sur le Tour de Suisse. Le cycliste belge a remporté aujourd'hui au sprint la 6e étape courue sur 187 km entre Coire et les Chutes du Rhin à Neuhausen. Présent dans une échappée de 3 coureurs partis dès les premiers kilomètres, les Suisses Mauro Schmidt et Stefan Küng ont été rattrapés à la flamme rouge par le peloton. Le Français Kevin Vauclin reste leader du classement général. Jan Christen a lui abandonné. L'Argovien de 20 ans a souffert ces derniers jours de blessures consécutives à une chute survenue lors de la première étape courue sous la pluie. Le projet d'étape jurassienne du Tour de Romandie 2026 n'est pas enterré, mais fortement compromis. Alors que Moutier candidate à accueillir un départ en 2026, les organisateurs de la boucle romande cycliste n'ont pas trouvé de ville d'arrivée dans le canton. C'est ce que nous a confirmé aujourd'hui le directeur de l'épreuve, Richard Chassot. Selon lui, il faudrait trouver une autre ville d'arrivée qui ne soit pas trop éloignée dans la région. Les délais deviennent toutefois courts et un autre concept pourrait être envisagé pour cette première étape. Et les 5 premières footballeuses suisses qui disputeront l'Euro féminin à domicile sont connues. La sélectionneuse nationale Pia Sundhage a retenu la milieu de terrain Noémie Ivelli, la défenseuse Giulia Stirelli, l'attaquante Anna-Maria Kronjovcevic ainsi que les gardiennes Livia Penck et Elvira Herzog. Leurs maillots ont été trouvés aujourd'hui dans le cadre de la chasse au trésor que l'ASF a choisi pour dévoiler le cadre de l'équipe pour le tournoi qui commence le 2 juillet. Les 23 joueuses de la Nati seront annoncées d'ici lundi après-midi. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous. RJB Sport.